Donc ce matin, nous allons traverser le livre de Malachie. Nous allons en particulier nous focaliser sur le premier chapitre de Malachie. Mais avant de lire, j'aimerais juste dire que en cette période estivale, en général, pas que celle-ci, mais c'est mon premier constat, c'est le constat que je fais le plus souvent, c'est cette tendance que nous avons à la légèreté. Nous avons une tendance à la légèreté en période estivale, nul besoin d'être très observateur pour constater cela. Une légèreté extérieure par la tenue vestimentaire qu'on peut avoir, température oblige, il fait très chaud donc il faut s'habiller léger. Mais ce qui me désole parfois, c'est la légèreté intérieure. Notre inclination à penser que Satan, le péché et la mort sont aussi en vacances. Et qu'on a moins besoin de Dieu en période estivale. Cette propension à la légèreté n'est d'ailleurs pas exclusive à la période des vacances, il me semble. Et c'est le reflet d'une attitude spirituelle plus générale, malheureusement. Le temps de vacances scolaires ne devrait jamais être un temps de vacances spirituelles. Bien au contraire, si nous avons de bonnes priorités. Je pense qu'il y a vraiment lieu de s'alarmer de la façon si banale et triviale que certains ont de considérer la vie chrétienne. Pour certains, l'année est faite de projets par-ci, de courses par-là, de factures à payer, d'enfants à s'occuper, de dossiers à boucler, qui n'ont jamais le temps vraiment de prier, de lire, de méditer la parole de Dieu, seul ou en groupe, et d'en partager les bienfaits avec leurs prochains. Et quand vient le temps de vacances, on se dit, ah ben, là ce n'est surtout pas le temps de considérer la parole de Dieu en profondeur, les voies de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, et sûrement pas de parler de prophètes de malheur, du jugement à venir. Et cela, bien sûr, tout en continuant à aller régulièrement à l'église, continuant à servir tous les dimanches, entre guillemets, parce qu'on se sentirait trop coupable de laisser tomber ce masque religieux qui nous reste. Je vous demande que venez vous chercher à l'église tous les dimanches. Certains répondront, louer un culte et rendre à Dieu l'honneur qui lui revient. Ah bon? À quoi ressemble un culte agréable à Dieu? Qu'est-ce qui fait d'un culte un service auquel Dieu prend plaisir finalement? Est-ce que tout culte est acceptable à Dieu du moment où on est sincère, authentique, du moment où on parle de Jésus, du moment où on a une croix accrochée au mur? Ou bien est-ce que Dieu demande de nous une certaine attitude en réponse à qui il est lorsqu'il se révèle à nous? Lisons Malachie 1, chapitre 1, verset 1 à 14. Donc Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau, de l'Ancien Testament. Nous lirons le premier chapitre. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand. Par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez son nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant qu'il ait pitié de vous, de nous. C'est de cela, c'est vous, c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. L'Éternel, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? L'Éternel des armées dit, je ne prends aucun plaisir en vous, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ici la parole de Dieu. Malachi, prophète dont le nom signifie mon messager, en hébreu, adresse ses peuples au peuple juif après leur retour d'exil à Babylone, de Babylone. Sous la conduite de Néhémie, le peuple avait connu une période de réveil, qu'on voit décrite en Néhémie, chapitre 10. Mais voilà qu'après la reconstruction du temple, sous l'impulsion de Zorobabel et Josué, dans un premier temps, et des murs de Jérusalem, les sacrificateurs et le peuple s'étaient rendormis après s'être un peu réveillés et refroidis dans leur marche avec Dieu. Par la façon mécanique et banale dont ils procédaient au sacrifice, ils démontraient du mépris et du dédain pour la loi de Dieu. Leur laxisme dans les sacrifices et leur frivolité dans le mariage et le divorce, c'est là le thème des chapitres 1 à 2, ainsi que leur avarice dans les dîmes, c'est ça le thème du chapitre 3, et d'autres types d'injustices leur vaudra la condamnation de Dieu, en particulier une absence de nourriture, dont parle le verset 12 que nous avons lu. Vous dites la table de l'Éternel rapporte quelque chose de méprisable, une absence d'eau, dont parle le verset 10 du chapitre 3. Si je ne réponds, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, comme quoi le Seigneur a fermé les cieux, il y avait une période de sécheresse en Israël. Donc voilà, la déchéance du peuple entraîne les jugements de la part de Dieu. Mais le pire dans tout cela est l'insouciance et l'aveuglement du peuple et des sacrificateurs supposés conduire tout le peuple de Dieu dans la communion avec lui. Au lieu de considérer à quel point c'était égaré, ils interrogent plutôt Dieu et le blâment. Ils lui demandent pourquoi est-ce que Dieu les condamne. Ils sont totalement aveugles de leur égarement. Vous voyez la perversion du péché sur notre raisonnement. Vous voyez comment on questionne Dieu au lieu de se repentir avec larmes, au lieu de se repentir, comme il disait autrefois, avec le sac et la cendre. Étonné de notre capacité à déchoir si facilement, à peine rentré d'exil, quelques années plus tard, il retombe déjà dans les mêmes travers qui les a renvoyés en exil. Mais Dieu, dans sa bonté immense, dans sa grandeur insaisissable, et dans son amour envers ce peuple qu'il a choisi d'aimer malgré eux, il envoie Malachi, ce prophète, son messager, pour répondre à leurs interrogations, de sorte que ce livre, finalement, lorsque vous le parcourez, il apparaît comme une espèce de dialogue entre le peuple, les sacrificateurs, et Dieu par la voix du prophète Malachi. Tout le livre est rythmé par les réponses à Dieu aux questions du peuple. En quoi t'avons-nous aimé au verset 2? En quoi tu nous as aimé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, chapitre 1. En quoi t'avons-nous fatigué? chapitre 2, verset 17. En quoi devons-nous revenir, chapitre 3, verset 7. En quoi t'avons-nous trompé, chapitre 3, verset 8. En quoi t'avons-nous dit contre toi. En quoi t'avons-nous méprisé, en quoi t'avons-nous trompé, en quoi t'avons-nous désobéi. Pourquoi devons-nous revenir? Ça, c'est le refrain qui revient encore et encore dans le livre de Malachie. Et Dieu répond à toutes ces interrogations dans sa grande patience à ce peuple qui est complètement ignorant de l'état dans lequel il est. Voyez-vous, voilà un peuple qui avait banalisé le culte rendu à Dieu et était très confortable dans ses choix. La façon dont ils interrogent Malachie, en quoi avons-nous, montre qu'ils étaient sincères dans leur attitude, probablement sincères, probablement authentiques, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient même pas le mal dans ce qu'ils faisaient. On dirait qu'ils avaient une attitude de sincérité, ils ne savent pas en fait. Ils étaient ignorants du mépris et de la colère qu'ils attiraient sur eux. Vous savez, frère, on peut être sincère, authentique, dans notre relation avec Dieu, en tout cas de ce qu'on voit, mais avoir sincèrement tort. On peut avoir sincèrement tort, voire même être sincèrement mort dans nos péchés, au point de ne même pas savoir qu'on a besoin d'être rendu à la vie. Comment le saurions-nous précisément? Nous sommes morts. Un mort ne sait pas qu'il a besoin de revivre, il est mort. Et c'est bien là l'attitude de ce peuple à qui Dieu demande de revenir et qui répond « En quoi devons-nous revenir ?» Oui, le jugement commence dans la maison de Dieu et malheur à nous. Malheur à nous si nous croyons avoir déjà évité toutes les rouages de Satan au point d'être arrivés au summum d'un culte agréable à Dieu dans nos vies personnelles et dans notre vie d'église ensemble. Lorsque nous nous croyons sages à nos propres yeux, nous sommes très proches du gouffre. Et comme il était dit la semaine dernière, ces petits prophètes nous invitent surtout à l'autocritique finalement, à nous examiner nous-mêmes. Le culte que nous rendons à Dieu jour après jour et qui culmine le dimanche matin. Ce premier chapitre du livre de Malachie nous aide à comprendre que la légèreté, la superficialité, vous savez, ils étaient tombés d'une espèce de routine. On sacrifie pour sacrifier, quel que soit l'animal qu'on va sacrifier, on sacrifie ce qu'on a sous la main, qu'on l'ait volé, qu'il soit boiteux, qu'il soit infirme, on ne fait plus vraiment attention. Une légèreté, une superficialité, une négligence dans le culte. Cette négligence, d'après ce chapitre de Malachie, est le symptôme du mépris qu'on peut avoir devant la grandeur de Dieu. C'est le mépris de la grandeur de Dieu. Ce mépris, on ne le dit pas verbalement. C'est pourquoi ils disent toujours, qu'avons-nous dit? En quoi avons-nous dit? Et le peuple et Malachie ne cessent de leur dire, vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Mais en fait, ils le disaient sans le dire. C'est un mépris non verbal de la grandeur de Dieu, de ce nom qu'on ne devrait jamais prendre en vain et qui ne peut être pris en vain impunément, qui peut faire qu'une assemblée dans un bâtiment pourtant bien bâti, propre, avec des murs reconstruits comme à Jérusalem, avec des murs bien rénovés, déplaise pourtant profondément à Dieu. Le mot « grand », je parle de la grandeur de Dieu, revient 4 fois dans ce chapitre. Au verset 5, 2 fois au verset 11 et une fois au verset 14. Je vous invite à voir 2 choses par rapport à la grandeur de Dieu ce matin. Nous allons voir que, premièrement, son amour exprime sa grandeur. Et ensuite, que sa grandeur suscite la crainte. Premièrement, son amour exprime sa grandeur. Il s'agit ici des versets 1 à 5 du chapitre 1. Il y a quelque chose de tout à fait surprenant quand vous lisez ces versets. Et en particulier, si vous êtes familier un peu à l'Ancien Testament et à la façon par laquelle Dieu est toujours en train de dialoguer avec son peuple. Il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe ici. Ce qui n'est pas inhabituel, c'est de voir Dieu, via le prophète Malachie, initier le dialogue. On va au chapitre, on va directement au verset 2, c'est l'Éternel qui parle d'abord. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. »« Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » C'est lui qui engage ce dialogue. Il n'y a rien, finalement, d'inhabituel là-dedans. C'est Dieu qui a toujours initié le dialogue. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui chercha Adam, tandis que celui-ci se cachait avec Ève. Une fois après leur péché, c'est lui qui appela Abraham, dur en Chaldée. C'est lui qui envoya Moïse sortit le peuple d'Israël de l'esclavage. C'est lui qui suscita des gens comme Gédéon, des rois comme David, des prophètes comme Jérémie et Esaïe avant l'exil, des intercesseurs dans l'exil comme Daniel, et après l'exil qui réveilla l'esprit de Zorobabel et Josué pour rebâtir le temple. C'est toujours Dieu qui initie l'œuvre. Oui, c'est toujours lui qui prend l'initiative de nous réconcilier avec lui quand nous sommes encore rebelles, durs d'entendement et aveugles à notre propre condition. Juste bon à blâmer les autres et surtout à blâmer Dieu, pour peu qu'on ait conscience de sa présence. Et le peuple, suite à l'habitude de Dieu de venir lui parler, il s'insurge contre Malachie et déclare au verset de « En quoi nous as-tu aimés ?» Ils savent qu'ils ne parlent pas à Malachie, c'est à Dieu qui s'adresse. « En quoi nous as-tu aimés ?» Et que répond l'Éternel ? Que répondez-vous à quelqu'un qui, lorsque vous dites à quelqu'un que vous l'aimez et qu'elle vous demande une preuve, que dites-vous ? En général, vous cherchez une preuve dans le passé. Que ce soit votre conjoint, votre enfant, votre sœur dans l'église, votre pasteur, votre Dieu, lorsqu'il vous demande « En quoi m'as-tu aimé ?» En général, notre réflexe est de dire « Regarde dans le passé, regarde ce que je t'ai offert. Regarde comme j'étais protégé. Regarde comme j'ai prié pour toi. Regarde comme je t'ai ouvert ma porte. Regarde comment je me suis sacrifié pour toi pour faire ceci ou cela. » Mais remarquez que ce n'est pas l'approche que prend le Seigneur ici. On pourrait s'attendre à ce qu'il leur dise, il leur rappelle les paroles d'Exode 19, verset 3. « Je vous ai porté sur les aigles d'aigle, sur les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. » Ou qu'il leur dise encore, comme en Deutéronome 7, versets 7 à 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime et qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » L'Éternel pourrait parler ainsi dans le passé et leur rappeler tout ce qu'il a fait pour eux depuis leur esclavage en Égypte. Mais ce n'est pas ce qu'il fait ici. Non, il leur parle au futur. Il leur présente son amour, finalement, en contraste avec le jugement qu'il fera tomber sur notre peuple et donc. D'ailleurs, lorsque Dieu va parler au passé, au verset 3, en disant « J'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai aimé Jacob », ce n'est encore que pour faire ressortir ce contraste entre Ésaü et Jacob, qui étaient pourtant deux frères. Il leur renvoie dans le futur et leur dit « Finalement, tu verras ce qui arrivera à ton frère dans le futur et tu comprendras que moi je t'ai aimé. » Voyez-vous, devant l'arrogance du peuple et sa négligence, Dieu exprime son amour d'une façon contraire à ce qu'on pourrait penser. Il veut surtout manifester sa grandeur. Il pourrait parler avec des paroles douces, affectueuses à son peuple, mais il voulait leur parler plutôt de sa grandeur. Il leur dit « Arrêtez de regarder à vous et regardez à moi. Regardez en particulier à ce que je ferai. » Il veut leur rappeler que s'ils en sont, ils en sont en tant que peuple, c'est purement par sa grâce. Plus encore, il a dit déjà à l'avance que lui, le Dieu omniscient et souverain, sur toute l'histoire, il leur dit à l'avance que Édom, qui descend des Aïus, sera détruit, mais pas eux. C'est ce qu'il leur dit. Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines », ainsi, par l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Mais pourquoi pas eux? Pourquoi pas le peuple d'Israël finalement? Parce qu'ils sont meilleurs? Loin de là. Précisément, Malachie est en train de les sommer à revenir à Dieu. Il est en train de les exhorter à se repentir. Ils ne sont donc pas meilleurs. Pourquoi ne sont-ils donc pas consumés? Eux qui viennent de Jacob, qui n'est rien d'autre que le frère jumeau d'Ésaü. Jacob et Ésaü n'ont-ils pas partagé le même sein maternel? N'ont-ils pas tous deux manifesté de diverses façons leur rébellion à Dieu? L'un par son mépris des choses sacrées et l'autre par ses arnaques à répétition. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il aimé Jacob et haï Ésaü? Soit parce que en vertu duquel il réserve à leur postérité deux sorts radicalement opposés. L'amour éternel de l'un et le jugement éternel pour l'autre. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? En vertu de ce qu'il appelle son dessein de l'élection. Vous voyez ce qui se passe? Devant la frivolité et la négligence des sacrificateurs, Dieu rappelle au peuple d'Israël, en réponse à la question « En quoi nous as-tu aimé ?» Dieu dit « Je vous ai aimé parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai élu. » Et comme vous le verrez encore dans le futur, je vous ai aimé parce que je vous ai aimé. Je vous ai rendu fécond, c'est sûr. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai protégé. Mais premièrement, je vous ai aimé parce que je vous ai choisi et que j'ai choisi de vous aimer. C'est un raisonnement totalement contraire à ce qu'on pourrait penser lorsqu'on attend les réponses et qu'on est en train de se plaindre à Dieu lorsqu'on dit « Pourquoi m'as-tu aimé ?» ou « En quoi m'as-tu aimé ? Je ne vois pas ta main dans ma vie en ce moment. Tout n'est que déchéance, tout n'est que épreuve, tout est noirceur. » Il vous demande plutôt de regarder dans le futur et de dire « Le châtiment éternel vous a évité. En ça, il vous a aimé. Vous le verrez encore. » Dieu est grand. Finalement, c'est la conclusion à laquelle il veut que son peuple arrive au verset 5. Il leur dit « Vos yeux le verront le châtiment que je donnerai à Édom, et vous direz « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » C'est-à-dire que Dieu est grand parce qu'il aime Israël d'un amour souverain. Comprenez cela? Humainement parlant, franchement, est-ce qu'on ne dit pas souvent la même chose? On dit souvent que quelqu'un a un gros cœur ou que tel monsieur est un grand monsieur lorsqu'il a des principes justes et droits et qu'il ne se laisse pas fléchir par le mal et la pression autour de lui. C'est de cette grandeur à laquelle Dieu fait référence ici lorsqu'il parle de son amour. Il dit « Je vous ai aimé, malgré votre rébellion, mon amour ne fléchit pas pour vous. » Ça, c'est un grand cœur. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Je pense à des hommes comme Martin Luther King, qui lutta contre la ségrégation raciale par l'amour sans se laisser fléchir, sans se donner au mal. Ou bien une femme comme Elizabeth Elliot, qui demeura 2 années en mission auprès des Indiens de la tribu de Quechua, ces Indiens qui avaient pourtant tué son mari, Jim Elliot. Son amour et son engagement auprès de ce peuple étaient le même, quel que soit ce que ce peuple lui avait fait en particulier à son mari. Il n'en est pas moins de notre Seigneur Jésus qui vint dans ce monde et témoigna de l'amour souverain de Dieu, finalement en déclarant l'Esprit, le vent de l'Esprit qui nous donne accès au royaume de Dieu souffle où il veut et nous ouvre les yeux de façon souveraine au point qu'on peut comparer cela à une nouvelle naissance. Il souffle où il veut, il donne la vie à qui il veut et cette vie est une nouvelle naissance puisque ce sont nos parents qui désire nous concevoir et non nous-mêmes. De la même façon, c'est Dieu qui a désiré nous aimer, nous attirer à lui et non nous-mêmes. Et cette naissance va bien au-delà des frontières d'Israël. Telle est la bonne nouvelle pour nous. C'est ce qu'il leur dit au verset 5. Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. En effet, lorsque l'apôtre Paul reprend cette idée de l'amour électif de Dieu en vertu duquel il aima Jacob et haï Ésaü, il dit en Romains 9, verset 24, « Ainsi, Dieu nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, notre petit prophète, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cela inclut même un reste d'Édom, ce Édom contre lequel Dieu est irrité à toujours, même un reste d'Édom aura part. C'est Amos 9, verset 12 qui nous le dit. Voilà à quel point Dieu est bon. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que Dieu choisisse certains et pas d'autres. Oui, en effet, ce n'est pas juste. C'est gracieux. La justice pure et simple consisterait à nous envoyer tous en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il s'est choisi, dans son grand amour, d'en sauver quelques-uns. Et dans sa grande sagesse, il nous montre comment il demeure juste, tout en déclarant juste et innocent des gens rebelles et coupables, tels que nous. Notre condamnation ayant été portée par Jésus-Christ, lui qui s'est substitué en mourant à la place de tous ceux qui placeraient leur conscience et leur foi en lui. Vous voyez comment l'Éternel brise l'orgueil et l'arrogance de son peuple. Lorsqu'il commence un peu à prendre son amour pour acquis, Dieu nous aime, de toute façon, l'amour de Dieu est inconditionnel, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on peut l'aimer, on peut revenir comme on veut, il va tout nous pardonner. De toute façon, est-ce que ça vaut la peine de vraiment prendre un engagement par rapport à l'offrande missionnaire et s'y tenir? Ouf. Est-ce que nous négligeons les engagements que nous avons en face de Dieu, que nous commençons à prendre son amour pour acquis, et même à le questionner quand il nous manque quelque chose? Dieu nous brise par son amour en nous démontrant en particulier la souveraineté de son amour. Il nous rappelle qu'il nous aime à cause de son propre nom, tout simplement. C'est-à-dire en choisissant des hommes et des femmes tels que nous, qui manquons souvent d'application dans notre attachement à Dieu, et ne trouvons aucun plaisir à méditer sa parole, aucun plaisir à méditer sa grandeur. En choisissant des hommes et des femmes tels que nous, il est manifeste qu'il est gracieux, que son amour est plus grand que notre rébellion. C'est par cet amour qu'il ouvre les yeux de son peuple, qu'il le verront, vos yeux le verront. Ils ne voient pas encore, ils sont aveugles. Mais par son amour, ils verront encore que grand est l'Éternel. Ils verront que grand est l'Éternel, parce que grand est le jugement qui leur a été épargné. Ils verront que grand est le jugement qui est tombé sur Édom, par conséquent, grand est le salut qui nous a été offert. Tel est le message de Dieu. Il veut dire, par-delà les frontières d'Israël, il veut rappeler à son peuple, je ne suis pas confiné à votre amour. Je ne suis pas confiné à vos frontières, je ne suis pas confiné à votre pays, je ne suis pas confiné à votre ville, je ne suis pas confiné à votre petite vie, je ne suis pas confiné à votre église. Non, son œuvre s'étend par-delà les frontières d'Israël, sur la terre entière. Et réaliser qu'il épargne la furie de sa colère, celui qui a la foi en Jésus-Christ, devrait provoquer chez nous un sentiment de sobriété. Un sentiment de reconnaissance. Une joie profonde mêlée de tremblement de l'âme. Une révérence devant la grandeur de la majesté de Dieu. Bref, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la bonne compréhension de la grandeur de Dieu devrait susciter en nous une joie mêlée de crainte, une révérence, une reconnaissance avec un tremblement de l'âme devant la majesté et la personne de Dieu. La bonne compréhension de Dieu, lorsque nous saisissons l'immensité de son œuvre dans notre vie, arrêtez-vous un instant et reconsidérez ses voies dans vos vies. Regardez où vous êtes. Regardez ce par quoi vous êtes passé. Considérez Dieu pour ce qu'il est. Considérez l'excellence de ses attributs. Et en particulier son amour souverain. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, lorsque nous avons une certaine révélation, une petite révélation même de ses perfections par l'Esprit de Dieu, elle crée au plus profond de nous un sentiment d'humilité, il me semble, de petitesse devant la grandeur de Dieu, en même temps qu'une joie d'être dans sa présence et un attachement profond à lui. Voilà en peu de mots ce que je comprends de la crainte de l'Éternel. Cette crainte de l'Éternel, ce n'est pas qu'un thème majeur de Malachie. Ce n'est pas qu'un thème majeur de l'Ancien Testament, c'est un thème majeur de toute la Bible. C'est comme ces grands thèmes, le temple de Dieu, la croix, la substitution, la crainte de Dieu, la foi. Et je me demande, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous entendons craigner Dieu, ou que nous entendons la crainte de Dieu? Vous savez, nous avons souvent des clichés dans notre monde évangélique, sans aucun fondement biblique parfois. Et l'un d'entre eux, c'est souvent de penser que le Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh, est un Dieu qui fait peur, qui suscite la crainte. Et que le Dieu du Nouveau Testament, Jésus, est doux, gentil, sympa. Il accueille tout le monde. Je pense que celui qui pense comme ça, probablement n'a pas lu le Nouveau Testament jusqu'au bout, parce qu'il va tomber sur l'Apocalypse et va se demander si c'est le même Dieu. Il me semble que c'est ce genre de schéma qui nous pousse souvent à associer directement cette notion de crainte de l'Éternel à une notion vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et à dire, ben, on est dans la Nouvelle Alliance, Jésus abolit tout ça normalement. Ce n'est plus pour aujourd'hui. S'il est clair que le Seigneur Jésus, par son sang, ratifie véritablement une Nouvelle Alliance, qui est plus excellente que l'ancienne, il est aussi plus évident que la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu suscite toujours, chez ceux qui sont au bénéfice de l'Esprit de Dieu, une réponse singulière, cette réponse singulière qu'est la crainte de l'Éternel. Elle est toujours là si vous avez compris qui est Dieu et ce qu'il a fait pour vous en Jésus-Christ. Autrefois, je disais ça l'autre jour, c'est un compliment, il paraît, de dire que telle personne craignait Dieu. C'est un homme qui craint Dieu, c'est une femme qui craint Dieu. C'était un compliment autrefois. Aujourd'hui, on enlève un peu le mot crainte, on dit c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Bon. Mais je pense qu'avec la banalisation et la frivolité, dans l'approche qu'on peut avoir de Dieu comme notre meilleur pote, qu'on n'est pas obligé d'obéir parce que c'est un pote, vous n'êtes pas obligé d'obéir à un pote, il n'est pas un maître. Par conséquent, lorsqu'on nous dit souvent, ça c'est un homme qui a la crainte de Dieu, on entend c'est quelqu'un de froid, de légaliste, de mélancolique, d'obscur, de rigide, de trop dur à supporter. Tout le contraire, de la stupeur joyeuse et de l'émerveillement de l'âme que connaît celui qui a véritablement la crainte de Dieu. C'est quelqu'un d'émerveillé. Quelqu'un qui saisit la grandeur de Dieu d'une façon qui pèse ses mots lorsqu'il parle, qui devient lent à parler. Mais lorsqu'il parle, c'est des paroles de vie et de paix qui découlent de son âme. Oui, certes, Abraham est aussi appelé l'ami de Dieu. Jésus appelle également ses disciples « mes amis » en Jean chapitre 15. Mais je pense que même nos animaux domestiques peuvent être nos amis. Moi, j'aime beaucoup les chiens. J'aime pas trop les chats. Mais j'aime bien les chiens. Mais en matière d'adoration et de culte, il y a une dimension transcendante qu'un ami ne peut pas vous apporter. Il y a une dimension transcendante à laquelle Dieu nous appelle lorsqu'il nous demande de lui vouer un culte. Et cette dimension, vous ne l'avez pas quand vous êtes en train... Une banalité, une négligence de la parole de Dieu. On ne peut pas l'avoir. Ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas court-circuiter la transcendance de Dieu et en faire simplement un meilleur pote, un ami intime, aussi précieux que soit son amitié. La crainte de l'Éternel, je pense, est si omniprésente dans l'Écriture. Exode 20, 20, Lévitique 19, 25, Deutéronome 6, 13, Deutéronome 10, Job 4, 23, Psaume 130, verset 4, Luc 10, Luc 12, 5, 2 Corinthiens 5, 11, Hébreux 12, 9, 1 Pierre 2, 17, et encore je passe des quantités de versets qui parlent de la crainte de l'Éternel. C'est omniprésent dans la parole, Ancien et Nouveau Testament, et c'est quasi équivalent finalement à la foi en Dieu, à la véritable piété. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Elle est souvent mise côte à côte avec la notion d'espérance. Elle est mise côte à côte avec la notion de foi. Elle est mise côte à côte avec la notion du salut même qu'on peut avoir en Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose de périphérique dans notre vie chrétienne. C'est quelque chose de central. Ce n'est pas quelque chose de seconde zone. C'est quelque chose qui a une place primordiale dans la vie du chrétien. Vous savez, lorsque Paul décrit toute la condition de l'homme déchu en Romains chapitre 3, regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 3, surtout la fin du verset 18. Il décrit la condition de l'homme déchu. Il dit à partir du verset 10, Romains 3, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez, on pourrait résumer tout l'état de la condition de l'homme avant de connaître Dieu à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et cette crainte, vous l'avez eue le jour où vous avez été touché par le message du salut. Cette crainte, vous l'avez eue le jour où vous avez été converti. C'est cette crainte, c'est par cette crainte que vous saisissiez d'une part l'horreur de votre péché, la gravité du jugement qui pesait sur vous, et d'autre part la grandeur, l'immensité du pardon de Dieu et de l'amour qu'il a pour vous en Jésus-Christ. C'est lorsque vous avez pesé ces choses ensemble, quand vous êtes venu en Christ, vous avez compris, vous avez mis devant vos yeux la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Vous voyez donc, la crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose de mystique, qui ne serait accessible qu'à une élite spirituelle, mais la réponse d'un cœur qui a compris un aspect de la grandeur de Dieu. Et c'est l'absence de cette crainte, finalement, qui est à la base des reproches que l'Éternel, par la bouche du prophète Malachie, va adresser au sacrificateur dans notre texte. Si on revient à notre texte au verset 6, il leur dit en particulier, « Si je suis maître, où est la crainte de moi ?» En effet, le peuple continuait d'une certaine mesure à considérer l'Éternel comme leur père et leur maître, puisqu'il faisait des sacrifices. C'est-à-dire pour eux, bah, c'est quand même un maître à qui il faut faire des sacrifices. Mais pourquoi est-ce qu'il lui apportait des sacrifices aussi méprisables ? Que s'est-il passé finalement? Eh bien, avec la routine et l'habitude, et je pense que cela également est valable pour nos vies, avec la routine, l'habitude, on perd progressivement ce sentiment d'émerveillement devant l'œuvre de Dieu, de ravissement devant ce qu'il a fait pour nous en Christ. Et ça laisse place à une religion morose où plaire à Dieu est le cadet de nos soucis. Regardez ce qu'il disait au verset 13. Quelle fatigue! Et le mot là-bas, vous le dédaignez, c'est vraiment, il soupire devant le temps. Pour eux, c'est bof, encore un dimanche. Allez, c'est le moment de chanter. Ah, tiens, maintenant, c'est le moment de la prédication. Bon, j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. J'ai pas pris assez de caféine ce matin, donc je vais devoir tenir. Car quelle fatigue d'aller louer ce Dieu tous les dimanches. Quelle fatigue de devoir me lever tous les matins. Bon, il faut lire la parole. Ok. Quel dédain! Combien les ressemblons-nous parfois? Nous appelons Dieu notre Père, mais nous n'avons pas de crainte filiale pour lui. Nous appelons Dieu notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés en Christ, à qui nos vies appartiennent donc, celui qui est supposé être maître et dont nous sommes serviteurs et esclaves. Mais nous branchons et murmurons à tout temps, à la moindre insatisfaction. Alors c'est en réalisant que Dieu est bien plus grand. C'est pourquoi il met devant nos yeux sa grandeur, par-delà nos frontières, par-delà les frontières de notre vie. qui dit « Reconsidère ma grandeur, reconsidère la grandeur de ma sagesse. Je t'ai sauvé par un évangile que tu serais incapable de concevoir quand bien même te donnerait l'éternité pour le penser. » Celui qui ne connaît pas la crainte de Dieu, ne connaît pas le contentement, il ne sait pas que ce que Dieu veut lui donner au moment, dans l'état actuel où il est, c'est ce dont il a le plus besoin. Lui qui sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Parce qu'il nous a sauvés quand nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être sauvés. C'est cela la crainte de Dieu qu'il demande au verset 6. Il dit, si je suis votre maître, si vous dites venir dans ma maison m'honorer, de quelle façon le faites-vous? Quelle est la crainte que vous avez de moi? Et c'est l'absence de cet honneur, de cette crainte que le peuple doit avoir de son Dieu qui irrite autant le Seigneur. Il dit au verset 10, j'ai pas fait attention à ce que j'ai relu ça, et puis j'ai relu, je me suis dit, mais c'est vraiment terrible. Il dit à la fin du verset 10, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Il ne dit pas juste que ce que vous m'apportez est méprisable. Il dit, à cause de ce que vous m'apportez, parce que ce que vous m'apportez, c'est le reflet de votre cœur. En fait, c'est votre cœur que je méprise. Je ne prends aucun plaisir en vous. Que l'Éternel ne prononce pas un tel châtiment sur nos vies. En effet, quand vous regardez aussi les versets 1, 11 à 14, il leur donne la raison. Il dit, je ne prends aucun plaisir en vous, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Il dit au verset 14 également, maudit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifice au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi. Vous voyez, selon ces versets, c'est l'aveuglement d'Israël devant la grandeur de Dieu qui devrait être évidente pour celui qui est un peu sensé, la grandeur de Dieu sur la terre. C'est l'aveuglement de son peuple devant cela qui l'irrite autant et qui fait qu'il ne prend aucun plaisir en lui. Tandis que toutes les nations tremblent à sa voix, comme dit ce chapitre. Mon nom est redoutable parmi toutes les nations. On l'a chanté tout à l'heure, roi et nation tremblent à sa voix. Tandis que sa grandeur remplit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Tandis qu'il gouverne le monde dans sa providence, dans chaque circonstance de notre vie. Tandis que toute molécule autour de vous existe et est en place et est bien réglée par sa sagesse. Tandis qu'il nous donne les saisons en leur temps pour notre bien. Voilà un peuple tellement centré sur lui-même qu'il questionne Dieu. Moi, je suis bien. C'est toi qui ne vas pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'il questionne Dieu, si confiant de leur propre sagesse. C'est comme quelqu'un qui serait au sommet d'une montagne, dans les Pyrénées, et au lieu d'avoir le souffle coupé par les paysages qui se dessinent devant lui, il prendrait son téléphone, prendrait un selfie, une photo de lui-même, juste le visage, sans le paysage, et le posterait sur les réseaux sociaux. Mais quelle folie! Quel narcissisme! C'est terrible! Vous êtes devant un paysage aussi magnifique, devant lequel vous devriez être en train de vous émerveiller de son créateur, mais là, vous ne pensez qu'à prendre une photo de vous et à mettre sur Facebook. Quelle adoration de soi. Et c'est un mépris de cette grandeur de Dieu que Dieu a en horreur. Okay. J'avoue, hein, personnellement, je ne fais pas beaucoup de randonnées. C'est pas comme si j'allais dans les Pyrénées tout le temps. J'y suis allé une seule fois cette année. Et franchement, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Mais même au sein de la ville, considérer les grands quartiers comme la Défense à Paris,
ceux considérés les grands bâtiments, les gratte-ciels de Manhattan à New York. Si vous pouvez aller, si vous allez au sommet de l'un de ces gratte-ciels, vous serez ébahi par l'immensité de ce qui se destine autour de vous. Vous serez tellement ébahi que vous sentez votre petitesse et votre fragilité devant ces monuments. Vous levez les yeux et ça se dessine et vous voyez juste les nuages passer au-dessus des gratte-ciels. Et vous vous sentez bien petit, fragile. Et vous vous dites, qui suis-je dans l'immensité de cette grandeur? Sans cette crainte dans l'âme devant la grandeur de Dieu, nous n'avons même pas encore commencé à voir à quel point nous sommes perdus sans lui, à quel point nous sommes fragiles, à quel point nous ne vivons que parce qu'il soutient nos vies. Il n'a même pas besoin de nous tuer, il suffit qu'il arrête de nous faire vivre. C'est lui qui est la source. Il ne s'agit pas d'avoir une crainte servile. On l'a lu tout à l'heure, l'amour bannit la crainte. Et encore, de nombreux versets remplissent la parole, ne crains rien, petit troupeau. Il s'agit là d'une crainte servile, d'une crainte de quelqu'un qui a peur, une crainte qui nous paralyse. Ce n'est pas de cette crainte qu'il s'agit ici. Il s'agit d'une crainte filiale. Cette distinction servile-filiale, c'est l'œuvre de Martin Luther. Il s'agit de cette crainte filiale qui nous donne à confesser finalement « Je ne suis rien sans Dieu, il n'y a de vie qu'en Dieu. Je ne suis rien sans toi, il n'y a de vie qu'en toi. » C'est une crainte que nous n'avons pas, que nous n'avons plutôt, qu'après avoir compris combien nous sommes pécheurs, mais combien nous sommes aimés. Combien nous sommes plus pécheurs que tout ce que nous pourrons jamais penser, mais combien nous sommes plus aimés que tout ce que nous pourrions jamais imaginer. C'est une crainte qui vous ramène jusque dans la poussière et qui vous élève jusque dans les cieux. C'est une crainte que déclare le verset 5 du chapitre 2, qui ne vient qu'après avoir compris l'œuvre de Dieu, pas avant. C'est une crainte qui vit, c'est l'œuvre même de Dieu dans votre vie. Ne dédaignez pas cette crainte, recherchez-la plutôt. Il dit au chapitre 5 du verset 2, au verset 5 du chapitre 2, pardon, mon alliance avec lui, parlant de Lévi, était une alliance de vie et de paix. Je lui ai accordé ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il eut de la crainte pour moi. Il a tremblé devant mon nom. Vous voyez ça? Dieu fit une alliance de paix et de vie avec les sacrificateurs, pour que les sacrificateurs le craignent. Il dit, pour qu'ils me craignent, afin qu'ils me craignent, dans le but qu'ils me craignent. Cette crainte de Dieu, c'est l'affection première que Dieu recherche dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il est venu faire alliance avec nous. Vous connaissez aussi bien le psaume 130, verset 4, qui déclare, le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne. Parfois, ça me semble paradoxal. Mais si tu pardonnes, pourquoi te craindre? Parce que nous n'avons pas compris c'est quoi la crainte de Dieu. Mais le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Et c'est également ce que le Seigneur dit. Vraiment, c'est ce qui caractérise l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Regardez lorsqu'il parle de la nouvelle alliance qu'il promet en Jérémie chapitre 32, les versets 39 à 41. Parlant de la nouvelle alliance qu'il fera avec les peuples de toute la terre, il dit, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Pourquoi? Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous voyez, la crainte de Dieu ne vous paralyse pas, ne vous fait pas fuir, elle vous conduit à Dieu. Elle ne vous éloigne pas de lui, elle vous rapproche de lui. Je prendrai du plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Tout le cœur et toute l'âme de Dieu, c'est de nous donner sa crainte par laquelle on s'approche de lui et on demeure auprès de lui, grandissant dans cette crainte, grandissant dans la connaissance qu'on a de lui, grandissant dans la connaissance qu'on a de sa grandeur. La crainte de Dieu, c'est la marque singulière d'un cœur régénéré. D'un cœur qui espère en l'Éternel et qui s'attend à lui pour la direction de sa vie. Il sait que S'il s'éloigne de Dieu, il est perdu. Tout lui vient de Dieu. Il veut tout rendre à Dieu. Et c'est tout le contraire que possédait ce peuple à qui Malachi s'adresse. Tout le contraire. Au lieu de cette crainte qui est le commencement de la sagesse, ils se sont vus sages à leurs propres yeux. En effet, quoi d'autre que cette sagesse à nos propres yeux, franchement ? Peut nous pousser à banaliser le culte. N'est-ce pas quand nous pensons avoir compris comment marche un peu le monde aujourd'hui, comment faire pour avoir plus de foule, comment rendre un culte soft, léger, évitons d'avoir trop de poids là-dedans, ça peut faire fuir les gens. Un culte qui banalise la louange faite à Dieu, on cherche à mettre les gens à l'aise. Où on néglige toute pratique qui donne du poids à Dieu et qui font que si quelqu'un entre ici, dit la présence de Dieu est dans ce lieu. En effet, si le peuple était attaché à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, comment ne saurait-il pas que le peuple, que Dieu a en horreur des sacrifices d'animaux boiteux ou aveugles? Ça remplit tout le Pentateuque. Tout le Lévitique, tout le Deutéronome ne fait que rappeler à quel point Dieu en horreur les aliments impurs et les sacrifices faits par des animaux boiteux ou aveugles. Comment ne saurait-il pas que le divorce, que Dieu est cela parce qu'il est lui-même fidèle à son alliance, c'est ce qu'il leur reproche au chapitre 2. Il dit « Je hais la répudiation ou le divorce » au verset 16 du chapitre 2. « Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il leur rappelle « Je suis votre Dieu, je suis fidèle malgré ce que vous êtes en train de faire. » Comprenez à quel point vous devez me refléter et haïr également la répudiation. Comment ne saurait-il pas que Dieu hait les sacrifices, hait le divorce et hait le fait d'épouser quelqu'un qui n'adore pas le Dieu de la Bible? C'est ce qui le rapproche également. Il dit, vous avez pris, il dit, vous êtes unis avec des personnes d'autres dieux. Ça encore chez le chapitre 2. Il dit, c'est uni à la femme d'un dieu étranger au verset 11. Il dit, si vous me connaissiez, vous ne pourriez pas faire ces choses. Si vous aviez la crainte devant vos yeux de moi, vous ne pourriez pas vous adonner à de telles choses. Parce que signifie finalement épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? N'êtes-vous pas en train de dire que ce Dieu est plus petit que cette personne et que votre attachement ultime doit être à cette personne et pas à Dieu? Non. Si ce peuple avait la sagesse qui vient de Dieu, s'il ne s'était pas cru propre, sage à ses propres yeux, au point de se dire, tout ce qui compte, c'est de rendre un culte à Dieu. On s'en fout du type d'animaux qu'on va sacrifier. On s'en fout de la personne avec qui on va se marier. On s'en fout de s'il y a des problèmes en divorce. On s'en fout de nos engagements par rapport à la dîme. Tous les thèmes qui viennent de ce chapitre, de ce livre. Il ne pourrait pas dire ça. Ils s'en foutaient véritablement. Ils étaient fatigués, disaient, répétition, banal. On leur reproche, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez, c'est la crainte de Dieu suscitée par la compréhension que nous pouvons avoir de sa grandeur, et en particulier de la grandeur de son amour, c'était le point 1, pour vous attacher à Dieu et vous rendre sage de sa sagesse. Si vous êtes attaché à Dieu, quelle que soit la redéfinition du mariage ou divorce que prône le courant actuel dans notre société, vous ne flanchirez pas, craignant trop d'offenser celui que vous aimez. Et je pense que ce sens de l'adoration, cette crainte finalement qui va au-delà de la sincérité, certains l'ont perdu. Comme a manifesté récemment l'Union protestante des Églises unies, les Églises réformées luthériennes, en choisissant de bénir les mariages de même sexe, ils ont perdu cette crainte de l'Éternel, ce sens de la grandeur de Dieu, ce sens qui fait que cette crainte qui exclut finalement toutes les autres craintes, la crainte de l'homme, la crainte de la mort, la crainte de les qu'en dira-t-on, C'est cette crainte qui chasse, qui expulse de notre cœur toutes les autres craintes qui finalement nous asservissent à elles-mêmes. À moins d'avoir commencé à craindre Dieu, vous craignez la mort. À moins d'avoir commencé à craindre Dieu, vous craignez les hommes. Craignez ce qu'ils diront de vous, ce qu'ils penseront de vous. Quand vous craignez Dieu, ça balaie tout seul. Il devient tellement plus petit parce que la mort a été vaincue. Et parce que ces hommes ne vivent que parce que Dieu leur donne le souffle. Oui, nous servons finalement ce que nous craignons quelque part. Pour finir, je veux juste attirer notre attention sur les versets 7 et 12. Les versets 7 et 12 de notre chapitre. Vous savez, il y a quelque chose dans cette attitude minimale, de service minimal qu'on veut rendre à Dieu, de médiocrité, de négligence dans le culte rendu à Dieu. Cette façon que les sacrificateurs avaient de dire de façon non verbale, bien sûr, la table de l'Éternel est méprisable et souillée. Ils disent dans les versets 7 et 12, Dieu dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et eux ils répondent, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et Dieu leur dit, vous m'avez profané lorsque vous dites, sans le dire, la table de l'Éternel est méprisable. Le verset 12, c'est la même logique au verset 12. Mais vous me profanez, il dit, vous le profanez, parlant de quoi? De sa grandeur, dont il parle au verset 11. Car grand est mon nom, mais vous le profanez, mon nom, en disant, la table de l'Éternel est souillée, ce qu'elle apporte est un aliment méprisable. Pourquoi, je me suis demandé, c'est assez étrange. Pourquoi une telle association? Pourquoi est-ce que l'Éternel dit que mépriser sa table, c'est le mépriser directement? Est-ce que Dieu aurait faim et soif, tellement faim et tellement soif, d'aliments et d'animaux que ce serait se moquer de lui que de ne pas lui donner ce qu'il lui faut pour survivre? Absolument pas. S'il avait faim, il ne nous le dirait même pas. Le monde est à lui et tout ce qu'il renferme, dit le psaume 50, verset 12. Non, il est clair que la première raison est que si vous voulez honorer quelqu'un, en général, si vous l'invitez chez vous, et que c'est une personne de grande importance, en général, plus la personne, vous l'avez en estime, plus vous lui ferez votre meilleur plat. Ça, moi, je ne sais pas cuisiner énormément, mais je sais faire deux choses peut-être. Et je vais choisir la meilleure des deux et la servir à la personne dans les meilleurs couverts à ma disposition. C'est ce que vous faites quand vous voulez honorer quelqu'un. Vous sortez le pactole. Vous mettez le... Mais bien plus encore. Et c'est ce que le peuple ne faisait pas. Il leur apporte des aliments, des animaux boiteux. Et ce qui... est méprisable, ce qui est vil ici, c'est qu'ils avaient dans leur troupeau des mâles en bonne santé. C'est ce qu'il dit au verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui m'apporte une bête chétive. Ils n'apportaient pas le meilleur de ce qu'ils avaient à Dieu. Qu'est-ce que ça disait donc de l'honneur qu'ils avaient envers Dieu? Mais bien plus encore, vous savez, les sacrifices d'animaux devaient refléter un besoin plus chez le peuple que chez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a faim ou soif d'animaux. C'est le peuple qui devrait avoir soif d'expiation, de rédemption, de justification. Ces sacrifices devaient refléter au mieux, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de sa sainteté, un substitut parfait et sans tache, sans défaut, pour le peuple qui pouvait lui imputer ses fautes. Et vous voyez, et directement, une mauvaise représentation de ce sacrifice diminuait inconsciemment dans leur esprit la gravité de leur péché, leur besoin immense d'être sauvé, d'être pardonné, et bien sûr la grandeur du pardon que Dieu leur accorde. Cependant, il est clair qu'aucune représentation, parce que ce sacrifice, c'est des images finalement, Aucune représentation n'a jamais sauvé, n'a jamais changé un cœur. Ils avaient rebâti Jérusalem, mais leur cœur était totalement dans les brides, pas du tout rebâti pour la gloire de Dieu. Non, les représentations n'ont jamais changé de cœur. Le sang des boucs n'a jamais ôté le péché du cœur. Sinon, ils ne l'auraient pas fait continuellement. Le fait même qu'ils reprenaient encore et encore les sacrifices montrait qu'ils n'étaient pas sauvés par ces sacrifices. De la même façon, vous savez, nous avons un culte en général, dimanche. Parfois, il y a des baptêmes. Enfin, nous prenons la scène à la table du Seigneur. Et je pense que même l'organisation du culte devrait penser avec le plus grand soin, avec crainte et tremblement, c'est le cas de le dire, pour illustrer au mieux la réalité historique et spirituelle de l'œuvre de Dieu. Bien que le baptême, la scène et la façon dont on fait le culte, vous pouvez être là tous les dimanches, ça ne vous sauve pas. C'est des représentations d'une réalité historique et spirituelle qu'il faut vous approprier. Tout le reste est un appel, est un souvenir de ce que Christ a fait. Oui, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après le livre de Malachie, il y aura plus de trois siècles de silence avant que Dieu ne parle encore à son peuple. Et trois siècles plus tard, dans ce que nous avons dans nos Bibles, le premier évangile, de façon chronologique, c'est celui de Marc. Trois siècles plus tard, Marc commence au chapitre 1, au verset 3, avec les mêmes mots, quasiment, par lesquels Malachie s'est terminé. Il dit, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin. » Il cite Ésaïe, mais il parle aussi de Malachie, parce que c'est en Malachie qu'il est écrit, au chapitre 3, verset 1, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Et donc, Jean-Baptiste vint, il prépara le chemin du Seigneur, ce substitut parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lui que Jean-Baptiste dira, voilà l'agneau de Dieu qui ôte véritablement le péché du monde. C'est celui dont j'ai préparé la venue, qui est plus grand que moi. Moi, il faut que je décroisse, que lui croisse. Il comprenait sa petitesse devant la grandeur de Dieu, devant la place que Christ devrait avoir dans sa vie. Christ seul, par sa mort finalement, purifie nos consciences chargées de péché. Parce que nous reconnaissons en lui notre condamnation. Nous connaissons notre besoin d'expiation. Nous savons que ça va mal. Et en Christ, regardez à Christ. Et dites, ça, c'était pour moi. Reconnaissant en lui votre condamnation, et lui seul, par sa résurrection, plaide pour nous auprès du Père d'un amour parfait. Et bientôt, il reviendra pour juger le monde. En attendant d'être revenu, il nous envoie encore comme des messagers, préparant sa seconde venue. Il nous envoie comme des gens qui ont compris sa grandeur d'un cœur brisé, contrit, d'un cœur humble, petit devant lui, reconnaissant dans sa croix la grandeur de son amour, son pardon, la puissance de sa résurrection. Il nous envoie annoncer son retour à ses enfants auprès de nous et par-delà les frontières de nos villes. Et c'est ainsi que nos cœurs croîtront dans la crainte de Dieu. Nous connaissons les versets d'Actes 2, 42 qui nous parlent des moyens de croître dans la grâce de Dieu, la prédication de la parole, la prière, la communion fraternelle, la scène. Ce qui est frappant, c'est de voir que juste à la fin, au verset 43, il est écrit « La crainte s'emparait de chacun ». Et c'est vraiment mon plaidoyer ce matin. C'est que la crainte, la croissance dans la grâce de Dieu, c'est une croissance dans la crainte, dans la compréhension de Dieu. conclure, je vais lire juste les chapitres, les versets 17 et 18 de Malachie 3, qui nous disent finalement, « Ils seront en moi. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour eux. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes avertissements, Seigneur, qui viennent nous rejoindre dans notre état, pour nous en délivrer, Seigneur. Nous voulons encore nous placer devant toi, Seigneur, avec crainte, révérence, Seigneur, sachant que nous pouvons comprendre ta voix que parce que tu nous ouvres les oreilles. Et donc, faire attention à ce que nous allons comprendre, parce que c'est toi qui nous parles. Seigneur, nous te prions encore de nous montrer toutes les dimensions de ce que tu as fait pour nous, par ta croix en Jésus-Christ. Nous montrer la grandeur de ton amour pour nous. Seigneur, faire pénétrer dans nos cœurs ta crainte, ta sagesse, l'intelligence de qui tu es. Et Seigneur, nous envoyer comme des messagers, proclamer cette bonne nouvelle, annoncer ce que tu as fait, appeler encore d'autres à la repentance et au salut, Seigneur, avec crainte et tremblement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, la grandeur de ton amour. En Jésus-Christ. Amen.